Chapitre 6. Sir Henry est très étonné de me voir arriver avec Holmes, mais il semble satisfait de sa présence, car depuis quelques jours, il attend sa venue avec impatience. Pendant l'excellent dîner qu'on nous sert, nous apprenons au jeune homme ce qui vient de se passer, mais sans donner trop de détails et sans parler du chien pour ne pas l'inquiéter.
Avez-vous pu éclaircir cette histoire de chien dont on ne cesse de parler ? Demande Sir Henry à Holmes.
Watson et moi, nous n'avons pas fait un seul pas en avant sur ce mystère.
Cette histoire est difficile et compliquée, mais j'avance, et bientôt, je ferai la lumière sur cette affaire.
Quand je vivais au Canada, j'ai eu des chiens, mais je n'ai jamais entendu des hurlements similaires.
Si vous arrivez à faire taire celui-là, je dirai partout que vous êtes le plus grand détective des temps modernes.
Je crois que je le ferai taire facilement, mais vous devez m'aider.
Je ferai tout ce que vous me commanderez.
Parfait. Je vous demande surtout de m'obéir aveuglément, sans vous demander les raisons qui me guident.
Je vous le promets.
Si vous tenez cette promesse, nous avons les plus grandes chances de résoudre bientôt le problème.
Holmes se met alors à observer la salle à manger, et plus particulièrement les tableaux des murs. Soudain, il pousse une petite exclamation.
Je lui demande : Qu'y a-t-il ?
Sherlock me regarde, et je vois qu'il réprime une violente émotion intérieure.
« Sir Henry, » dit-il, en tendant la main vers la série de tableaux qui couvrent le mur, « vous avez là une fort belle collection de portraits.
Ce sont des portraits de famille ?»«
En effet.
Savez-vous le nom de ses ancêtres ?»«
Barrymore m'en a beaucoup parlé et je crois que je peux réciter ma leçon. »«
Juste une question. Ce cavalier en face de moi, celui qui porte un habit de velours noir, qui est-ce ? »
Il mérite qu'on vous le présente, car il est la cause de tous nos malheurs.
Il s'appelle Hugo.
Hugo le maudit. C'est lui qui a fait apparaître le chien des Baskerville.
Nous ne sommes pas prêts de l'oublier.
Intéressé et surpris, j'examine le portrait.
Vraiment, dit Holmes. Il a l'air d'un homme simple et tranquille, mais on devine dans ses yeux une pensée mauvaise.
Il est temps de se séparer. Comme mon ami n'a pas de bagages, nous lui donnons, Sir Henry et moi, tout ce dont il a besoin. Puis, je vais trouver le couple Barrymore pour leur annoncer la mort de Selden, un moment très difficile. Sir Henry se retire dans sa chambre, et au moment où je veux aller dans la mienne, Sherlock me dit :
Venez avec moi.
Nous redescendons dans la salle à manger. Et là, Holmes attire mon attention sur le tableau de Hugo Baskerville. « Ressemble-t-il à quelqu'un que vous connaissez ?» me demande-t-il.
« La bouche me fait penser à celle de Sir Henry. »
Holmes monte alors sur une chaise. Et avec son bras, il cache le chapeau et les cheveux du personnage.
« Mon Dieu !» dis-je. « On dirait le portrait de Stapleton. »
« Ce Stapleton est un Baskerville, j'en suis sûr. »
Un Baskerville qui veut toucher l'héritage.
Exactement, dit Holmes.
Nous le tenons, Watson, nous le tenons. Demain soir, il tombera.
Le lendemain matin, je me lève de bonne heure. Holmes a été plus matinal que moi. En effet, de ma fenêtre, je l'aperçois dans la grande allée du parc. Je vais le retrouver et nous rentrons dans le château.
Nous aurons aujourd'hui une journée bien remplie, me dit-il.
Qu'allons-nous faire en premier ?
Parler avec Sir Henry.
Justement, le voici.
Bonjour, Holmes, dit le jeune homme. Vous ressemblez à un général en chef prêt au combat.
Votre comparaison est exacte. Watson me demandait les ordres.
Je vous en demande aussi pour moi.
Très bien. Vous êtes invité à dîner ce soir chez les Stapleton.
Oui, vous y viendrez également. Ce sont des gens très accueillants. Ils seront très heureux de vous voir.
Je suis désolé, mais Watson et moi, nous devons aller à Londres aujourd'hui.
À Londres ?
Oui, notre présence là-bas est vraiment indispensable.
Je pensais que vous étiez ici pour m'aider.
Mon cher ami, dit Holmes,
vous devez avoir totalement confiance en moi et exécuter fidèlement mes ordres.
Vous direz aux Stapleton que nous sommes obligés de retourner à Londres pour des affaires urgentes.
Vous ajouterez que nous pensons revenir bientôt dans le Devonshire. Voulez-vous ne pas oublier de faire cette commission à vos amis ?
Quand désirez-vous partir ?
Demande Sir Henry d'un ton un peu sec. Aussitôt après déjeuner.
Encore une recommandation. Allez en voiture à Merripit House, puis renvoyez votre cocher en disant au Stapleton que vous rentrerez à pied au château.
À pied ? À travers la lande ?
Oui.
Mais c'est précisément la chose que je ne dois jamais faire, d'après vous.
Aujourd'hui, vous pouvez faire cette promenade en toute sécurité. Il est essentiel que les choses se passent ainsi.
Je vous obéirai.
Si vous tenez à votre existence, ne suivez sur la lande que le chemin qui va de Merripit House au château.
C'est ce que je vais faire.
2 heures plus tard, nous arrivons au village et nous allons à la gare pour prendre le train. Sur le quai, un jeune garçon nous attend.
« Avez-vous des ordres à me donner, monsieur ?»
demande-t-il à Sherlock Holmes.
« Oui, Cartwright.
Allez tout de suite à la poste et demandez s'ils ont un message pour moi. » Cartwright revient peu après avec un télégramme qu'il donne à Holmes. Voilà ce qui est écrit. « Selon votre désir, j'arrive à la gare à 5h40, Lestrade. » Watson, ce Lestrade est le plus habile détective de Scotland Yard et nous pouvons avoir besoin d'aide. Il nous reste à attendre son arrivée. Comme vous le voyez, nous ne partons pas à Londres.
À l'heure dite, le train de Londres entre en gare. Un petit homme, fort et musclé, saute d'un wagon de première classe. Nous lui serrons la main.
Un cas sérieux ? Interroge Lestrade.
Un fait tout à fait extraordinaire, répond Holmes. Nous avons devant nous 2 heures avant de nous mettre en route.
Dînons. Vous connaissez cette région ?
Non ?
Eh bien, je pense que vous n'allez jamais oublier cette première visite.
Une fois la nuit tombée, nous nous rendons en voiture à Merripit House.
Êtes-vous armé, Lestrade ? Demande mon ami.
Le petit détective sourit.
Toujours, dit-il.
Bien. Nous sommes également prêts pour intervenir, Watson et moi.
Vous êtes peu communicatif, monsieur Holmes, reprend Lestrade. Qu'allons-nous faire ?
Attendre.
Ah bon ? Pourtant, l'endroit ne me semble pas très agréable, dit Lestrade.
Nous suivons le chemin qui mène à la maison des Stapleton. Mais, à 200 mètres d'elle, Holmes s'arrête.
C'est bon, dit-il. Ces rochers à droite nous serviront de cachette.
« C'est ici que nous devons attendre ?» demande Lestrade.
« Oui. »
Holmes me demande alors de jeter discrètement un coup d'œil par la fenêtre des Stapleton. Je suis surpris de voir que Sir Henry est seul avec le naturaliste. Je vais retrouver Holmes et le lui dis.
« Où peut-être Miss Stapleton ? Puisque sauf les fenêtres de la salle à manger, toutes les autres sont plongées dans l'obscurité. »«
Je l'ignore. »
Sir Henry ne va pas tarder à partir. Préparons-nous.
Le brouillard commence à tomber, ce qui accentue l'angoisse de notre attente. Soudain, un bruit de pas rompt le silence de la lande. Cachés au milieu des pierres, nous regardons avec insistance le mur de brouillard qui nous empêche de bien voir la maison. Les pas deviennent de plus en plus distincts et Sir Henry apparaît. Rapidement, il descend le chemin, passe tout près de nous et commence à monter la colline qui se trouve derrière nous. Tout en marchant, il tourne à chaque instant la tête d'un côté et d'un autre, comme un homme qui se sent mal à l'aise.
« Attention !» crie Holmes. « Je l'entends !»
En même temps, je perçois le bruit sec d'un pistolet qu'on arme. À ce moment-là, Lestrade pousse un cri de terreur et se jette sur le sol. J'arme mon revolver, mais je suis comme paralysé devant l'effrayante apparition qui vient de surgir du brouillard. C'est un chien. Un énorme chien noir. Holmes et moi, nous tirons au même moment. La bête hurle horriblement, ce qui nous prouve qu'au moins l'un de nous l'a touchée. Cependant, elle bondit en avant et continue sa course. Sir Henry s'est retourné. Nous apercevons son visage paniqué et ses mains étendues en signe d'horreur devant cet être sans nom qui le poursuit. Au cri de douleur du chien, nous savons qu'il est mortel. Et si nous avons réussi à le blesser, nous pouvons également le tuer. Nous nous mettons tous à courir derrière lui. Sherlock Holmes est le plus rapide. Nous entendons plusieurs cris répétés de Sir Henry, ainsi que l'aboiement furieux de la bête.
Je la vois soudain s'élancer sur sa victime, la faire tomber et la saisir à la gorge. Holmes tire 5 fois sur le monstre. Ce dernier roule enfin sur le dos. Ses 4 pattes s'agitent convulsivement, puis il devient immobile. Je m'avance en tremblant et j'appuie le canon de mon revolver sur son horrible tête. Inutile de tirer. Le chien géant est mort, et bien mort cette fois. Sir Henry s'est évanoui. Quelques minutes plus tard, il revient à lui, ouvre les yeux et essaie de se lever.
« Mon Dieu !» dit-il en tournant vers nous des yeux effrayés. « Au nom du ciel, dites-moi ce que c'était !»«
Peu importe, puisqu'il est mort, » dit Holmes. « Nous avons enfin tué le monstre de la légende des Baskerville. » L'animal qui est à nos pieds est mort, mais une flamme légèrement bleue semble sortir de son énorme gueule, et un cercle de feu entoure ses yeux, petits et féroces. Je pose la main sur cette gueule lumineuse, et quand je retire mes doigts, il brille dans l'obscurité. « C'est du phosphore, » dis-je. « Oui, une très curieuse préparation, » dit Holmes. « Nous vous devons des excuses, Sir Henry, pour vous avoir exposé à tout cela. Je pensais qu'il s'agissait d'un chien, et non pas d'une créature de cette sorte.
Vous m'avez sauvé la vie.
Après vous avoir fait courir un grand danger. Vous sentez-vous assez fort pour vous tenir debout?
Voulez-vous m'aider à me lever?
Qu'allez-vous faire? Vous n'êtes pas en état de vivre plus d'aventures. Attendez un moment, puis l'un de nous retournera avec vous au château.
Sir Henry va s'asseoir sur un rocher et essaie de se calmer.
« Nous allons vous laisser, » dit Holmes. « Nous devons finir notre travail et arrêter le criminel. Chaque minute a une importance capitale. »
Et pendant que nous marchons sur le petit chemin, mon ami ajoute. « Je suis certain que Stapleton n'est plus chez lui. Il a compris qu'il a perdu la partie. Il suivait sans doute le chien pour l'exciter. Maintenant, il est déjà loin. Nous allons fouiller la maison pour en être sûr. » La porte d'entrée est ouverte. Nous entrons. Et regardons dans toutes les pièces. Aucune trace de Stapleton. À l'étage supérieur, la porte d'une chambre est fermée à clé.
« Il y a quelqu'un !» s'écrie Lestrade. « J'ai entendu du bruit. Ouvrez !»
Nous forçons la porte. Le revolver au poing, nous nous précipitons dans la pièce. Là, sur un lit, se trouve Beryl, ligotée et bâillonnée. Nous la libérons. Elle nous dit d'une voix faible.
S'est-il échappé ?
Il ne peut pas nous échapper, madame, répond froidement Sherlock Holmes.
Non, non, pas mon mari. Sir Henry, est-il sain et sauf ?
Oui.
Et le chien ?
Mort. Madame Stapleton pousse un long soupir de satisfaction.
Merci, mon Dieu, merci.
Oh, le misérable !
C'est un homme horrible.
Savez-vous où il a pu fuir ? Il y a sur la lande, dans les marécages, une ancienne mine d'étain. C'est là qu'il cachait son chien. Il a également un refuge là-bas. Je pense qu'il y est.
Pour commencer nos recherches, nous devons attendre la fin du brouillard. Nous confions à Lestrade la garde de la maison et nous reprenons, Holmes et moi, le chemin du château de Baskerville en compagnie de Sir Henry. Impossible de taire plus longtemps à Sir Henry l'histoire des Stapleton. Il supporte courageusement le coup que lui porte au cœur la vérité sur la femme qu'il aime. Le lendemain du drame de Merripit House, le brouillard s'est levé. Madame Stapleton nous guide vers l'endroit où son mari et elle ont tracé un chemin à travers les marécages. Le chemin est boueux et il est difficile d'avancer. Avec le brouillard, Stapleton a dû se perdre, ou pire. Nous avançons cependant. Soudain, Holmes aperçoit quelque chose de noir sur une pierre dans le marécage. Il s'enfonce dans l'eau et revient avec une vieille bottine. À l'intérieur, on lit cette adresse. Meyer, Toronto. C'est la bottine volée à notre ami Sir Henry. Stapleton l'a jetée là dans sa fuite, dis-je.
Certainement.
Il l'avait conservée à la main après l'avoir utilisée pour mettre le chien sur la piste de Sir Henry. Nous arrivons enfin à la mine d'étain. Une chose est sûre, jamais Stapleton n'a pu atteindre cet endroit, malgré sa lutte désespérée contre le brouillard. Quelque part,
dans ces marécages. Cet homme au cœur froid et cruel est mort, aspiré par la boue visqueuse. Nous fouillons l'endroit. Dans l'une des cabanes, une niche à laquelle est fixée une chaîne. Puis, un tas d'os indique l'endroit où Stapleton attachait son chien. Stapleton n'a jamais été retrouvé. Après ces événements, nous retournons à Londres. Un soir, à Baker Street, alors que nous sommes installés dans des fauteuils près de la cheminée, Sherlock se décide enfin à me dire tout ce qu'il a découvert sur les Baskerville. Vous vous souvenez, Watson, de la ressemblance entre Hugo le Maudit et Stapleton? Eh bien, elle est vraie. Stapleton était bien un Baskerville. C'était le fils du plus jeune frère de Sir Charles. Ce dernier, qui vivait en Amérique du Sud, n'était pas célibataire, mais marié et avait un fils. Vous savez qui c'est. Ce misérable Stapleton, qui vivait aussi en Amérique du Sud, a épousé Beryl Garcia. Un jour, il a commis un vol considérable et il a dû fuir. Il a changé de nom et est parti en Angleterre. Il connaissait l'existence du riche domaine des Baskerville. Il savait également que deux personnes seulement le séparaient de la possession du château et des terres. Au départ, il n'avait pas de plan défini, mais il était prêt à tout pour parvenir à ses fins. D'abord, il s'est installé près du château de ses ancêtres et a fait passer sa femme pour sa sœur. Puis il a essayé de conquérir l'amitié de Sir Charles Baskerville et de ses autres voisins. C'est Sir Charles qui lui a appris l'histoire du chien de la famille, et c'est ainsi que le pauvre homme a signé sa propre mort. Par Mortimer, Stapleton a su que Sir Charles avait le cœur fragile et qu'une grande émotion pouvait le tuer. Il a dressé un chien diabolique et a pu ainsi agir. Il espérait que sa femme l'aiderait dans ses projets, mais elle a refusé énergiquement. Malgré les menaces de Stapleton, Beryl n'a jamais voulu se mêler de cette histoire. À partir de ce jour, il s'est méfié d'elle. Et vous devinez la suite. Après Sir Charles, il devait éliminer Sir Henry pour pouvoir enfin toucher l'héritage. Mais il n'en a pas été ainsi. Nous restons un moment en silence. Puis, mon ami ajoute. Watson, nous avons beaucoup travaillé. Il est temps de nous offrir une petite distraction. Un dîner léger, puis en route pour le théâtre. Qu'en dites-vous ?